Europe 1.
Je suis Gaspard, roi et mage, et voici Balthazar.
Tous les jours sur Europe 1,
et nous devons sans tarder trouver notre ami Melchior et guetter le signe qui nous mènera au Messie.
Historiquement vôtre.
And so I wish you all a very happy Christmas.
Je me suis senti plus proche des Allemands que ceux qui crient mort aux Boches chez eux, bien au chaud devant leur dindon marron.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Clémentine.
Bonjour.
Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Stéphane.
Bonjour David.
Bonjour Stéphane.
Bonjour à vous tous. Et bonjour à celui qui est aussi avec nous aujourd'hui, notre globe-trotteur de l'histoire, Gavin Clemente-Ruiz.
Bonjour à tous.
Je suis ravi de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire sans se la raconter en compagnie de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, qui ne vivaient pas à la même époque, mais qui ont un point commun. Aujourd'hui...
Oh Marie, si tu savais...
Non, hélas, je nie, elle ne saura jamais. Parce que Marie Stuart est née il y a 480 ans et elle est partie depuis bien longtemps déjà. Elle ne saura donc pas qu'aujourd'hui on réunit trois comédiennes qui l'ont incarnée. Trois dames qui ont redonné vie à la reine d'Écosse. Marie Stuart, c'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi. A commencer par une comédienne hollywoodienne qui lui a prêté ses traits et son talent, Katharine Hepburn.
Thank you, James.
Oh, de rien, moi c'est Stéphane. Katharine Hepburn était Marie Stuart sous la direction de John Ford, même si elle aurait préféré incarner sa cousine et rivale, Elisabeth Ier d'Angleterre. Puis je vous raconte une comédienne qui manque follement au cinéma français et qui a, elle aussi, pour la télé, incarné la reine d'Écosse, qui fut également celle de France, de par son union avec François II, je le rappelle, hein, si bien si on peut glisser une information historique
en même faire.
Temps. Voilà, c'est Annie Girardot. Et après les mortes, la vivante. C'est vous, Jean-Luc Lemoine, qui dresserez vers 17h30 le portrait de notre troisième dame du jour, une comédienne qui est aussi une reine, hein, on peut le dire, dans son domaine.
Oui, elle s'appelle Isabelle Adjani. Elle fait partie de ces comédiennes qui peuvent tout jouer, et encore mieux les reines. Si elle a été la reine Margot, ou plus récemment, la presque reine Diane de Poitiers, elle a aussi joué au théâtre Marie Stuart.
Ben, eux aussi, finalement, ils sont crédibles dans tous les rôles. À commencer par celle qui nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde, Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bah oui, mais enfin, dites donc, on va avoir nos doses, là, de Marie Stuart. Hein. Alors bon, écoutez, comme vous allez quand même...
C'est le thème de l'émission.
Bah, je sais bien.
C'est engageant pour les auditeurs.
Bah, je suis d'accord, mais enfin, je vais pas m'y mettre aussi. Alors moi, j'ai plutôt parlé d'un événement très fameux qui concerne son tonton, le duc de Guise.
Bah, le oui, frère à sa maman.
Bah oui, voilà. Parce que la mère de Marie Stuart, Marie de Guise-Lorraine, était la sœur du duc de Guise. Alors, l'assassinat du duc de Guise, ça a duré un quart d'heure, mais ça a quand même changé le sort du royaume de France.
Ah oui, absolument. Lui, eh bien, il remonte aux origines d'un objet, d'une mode, d'une passion, voire d'une obsession, souvent la sienne. C'est David Castello-Lopez. De quoi nous parlez-vous ?
Eh bien, d'un instrument de musique futuriste et étrange, dont le bruit fait ça.
C'est
désagréable, mais vous allez apprendre à comprendre la beauté de cet instrument. Je vous raconte une histoire qui s'appelle le térémine.
Le térémine.
Le térémine, tout à fait.
Très bien. Les origines, c'est dans toute fin d'émission, mais juste avant, comme dirait l'autre.
Mais aïeux, quelle époque, mais aïeux, quelle époque.
Ça s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on remonte le temps et on parle de la découverte avec vous, Gavin Clemente-Ruiz, direction l'est de la Sibérie en Russie, où le peuple yakout perpétue une tradition vieille de 7 siècles.
Exactement, c'est l'Olonko. C'est une saga, une épopée qui fait plus de 10 à 15 000 vers et on va découvrir... ça ressemble pas au térémine, mais pas loin.
Okay. Ah oui,
vous allez voir.
Ah oui. Ah, vous avez, c'est d'une pure, je voulais dire.
Oh non, j'irai pas jusque-là, mais c'est intéressant.
C'est intéressant.
Mes aïeux, quelle époque. Ce sera tout à l'heure, vers 17h45.
Vous avez tout dit, Stéphane.
Oui, oui.
Non, écoutez bien.
Oui, bah oui, c'est mon moment préféré de l'émission, si on enlève tous les autres. C'est Bern to be live. Vous posez des questions, Jean-Luc, et avec Clémentine, on tente d'y répondre.
C'est bien, Stéphane, tenter de répondre. C'est un objectif atteignable pour vous.
Je sais. Mais pour l'heure, je vous raconte notre premier personnage du jour.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
C'est l'histoire d'une légende qui en joue une autre. Une star du cinéma hollywoodien qui incarne une reine d'Écosse au destin exceptionnel. Je vous raconte maintenant celle qui s'est mise, pour John Ford, dans la peau de Marie Stuart. Et n'a, précisons-le tout de suite, aucun lien de parenté avec Audrey, l'actrice Katharine Hepburn. Dès les débuts du 7e art, les cinéastes se sont emparés du destin tragique de Marie Stuart. Il faut avouer qu'il y a de quoi faire en termes de drame, de complots et de rebondissements. dès 1895, qui est la date qu'on retient comme celle de l'invention du cinéma, le réalisateur William Hayes met en scène la décapitation de la reine d'Écosse dans The Execution of Mary, Queen of Scots. On raconte souvent que l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat des Frères Lumière a créé un mouvement de panique dans le public, les spectateurs ayant cru que la locomotive leur fonçait dessus. Alors imaginez les réactions devant ce bourreau qui, à coups de hache, découpe la tête d'une reine qui roule ensuite au sol comme un ballon de foot. Heureusement que le noir et blanc nous épargne les giclées de sang. Rassurez-vous, la scène est truquée. L'actrice a été remplacée par un mannequin grâce à un arrêt de caméra. Au fil des décennies, le cinéma se perfectionne. Dans les années 30, à Hollywood, il connaît même son âge d'or. Le public se passionne pour les westerns qui reproduisent la conquête de l'Ouest. Le maître du genre, c'est John Ford. On lui doit L'homme qui tua Liberty Valance, Les raisins de la colère ou La chevauchée fantastique. Mais le cinéaste s'attaque aussi à des sujets historiques. Le 28 juillet 1936, les Américains se pressent dans les salles obscures pour découvrir Mary of Scotland, qui n'est autre qu'un biopic sur Marie Stuart. Et pour incarner la reine d'Écosse, c'est Katharina Hepburn qui a été choisie pour le rôle. Née en 1907 dans le Connecticut, Katharine se passionne très tôt pour la comédie. À 20 ans, elle obtient son diplôme d'art dramatique et débute sa carrière sur les planches. Aussi ambitieuse que déterminée, elle vise Hollywood et rien d'autre. Ça tombe bien, les studios sont alors à la recherche de nouvelles icônes. Fini le temps des ingénues du cinéma muet. On veut des femmes de caractère, modernes et insoumises, en tout cas sur le papier. Katharina Hepburn sait qu'elle est capable de concurrencer la star Greta Garbo. Rebelle, anticonventionnelle, son air snob et son accent aristo séduisent vite un directeur de la RKO. Elle signe avec celle qui reste la plus ancienne des sociétés américaines indépendantes de production de films, son premier contrat, et joue dans Heritage en 1932. Katharine a tout juste 25 ans et sa carrière est lancée. Les rôles qu'elle interprète collent à sa personnalité. Dans une adaptation des quatre filles du Dr. March de George Cukor, elle incarne Jo, la sœur rebelle qui refuse de se marier pour devenir écrivaine. Dans Sylvia Scarlett, elle se déguise en homme et embrasse une femme. C'est l'un des premiers baisers lesbiens de l'histoire du 7e art. À sa sortie, le film provoque un scandale et le public hue Katharina Hepburn et celui avec qui elle partage l'affiche, Cary Grant. Un jour, elle tombe sur un scénario qu'elle juge fait pour elle, Morning Glory. C'est l'histoire d'une femme qui rêve de devenir actrice et va se donner les moyens de son ambition. « Je dois faire ce film », assène-t-elle au producteur. Et devinez quoi ? Cette même année, Katharine assiste à une représentation d'une pièce de théâtre de Maxwell Anderson à Broadway, « Mary of Scotland ». Elle propose à la RKO d'en faire un film réalisé par son ami George Cukor. Mais le cinéaste n'est plus très bankable, comme on dirait aujourd'hui, et les producteurs lui préfèrent alors un réalisateur chevronné, John Ford, réputé pour, je cite, « diriger les femmes sans fioritures ». Il dira de son actrice principale qu'elle n'est pas une quelconque jeune actrice jolie et talentueuse qu'on peut habiller comme on veut et photographier à la légère. Non, avec Katharine Hepburn, on ne fait pas les choses à la légère. Pour bien réunir l'actrice et son personnage, John Ford étudie minutieusement la filmographie de la première et les portraits, gravures, costumes de la seconde qui vécut au XVIe siècle. Le film raconte la vie de la reine d'Écosse, de son retour de France à 18 ans jusqu'à son exécution à 44 ans. Née en 1542, Marie Stuart a grandi en France. Elle en est même brièvement reine grâce à son mariage avec François II, l'héritier d'Henri II. À la mort de son époux, elle revient en Écosse, où elle est aussi reine, étant la fille du roi Jacques V. Les destins des deux femmes, Katharina Hepburn et Marie Stuart, se croisent plus d'une fois. Pour les spécialistes du cinéma, la manière dont est mise en scène l'arrivée de Mary au château de Holyrood, en Écosse, fait directement écho à l'entrée fracassante de Katharina Hepburn à Hollywood quelques années plus tôt. Malheureusement pour Marie Stuart, le retour ne se passe pas comme prévu. Elle doit faire face au soulèvement des lords protestants qui la contraignent à abdiquer. Un homme lui vient en aide, il est comte de Boswell et s'appelle James Hepburn. Coïncidence, je ne crois pas. Il s'agit bien là d'un ancêtre de Katharine. Et grâce à lui, Marie Stuart parvient à fuir en Angleterre. Dans son film, John Ford prend le parti de montrer une femme soumise à un homme. Une relation qui fait écho à celle qu'il entretient avec Katharine Hepburn sur le tournage, d'après les gazettes de l'époque. Le réalisateur à poigne parvient en effet à maintenir la star rebelle sous son autorité. Quant au scénario, il suit la réalité des faits. Grâce au comte de Boswell, Mary Stuart trouve donc refuge en Angleterre chez la reine Elisabeth Ier qui n'est autre que sa cousine. Refuge ? Pas vraiment. Elisabeth craint que Mary ne revendique ses prétentions sur son trône, alors elle la tient prisonnière pendant 18 ans et finit par la condamner à mort. Un destin tragique qui va faire regretter son choix à Katharine Hepburn. Le film Mary of Scotland de John Ford montre en effet la rivalité entre deux reines. D'un côté, Elisabeth Ier d'Angleterre, reine vierge, dont la seule passion est le pouvoir. De l'autre, Mary Stuart, reine d'Écosse, déchue, qui s'est laissée guider par ses sentiments. À la fin du film, une confrontation a lieu. Mary dit à sa cousine « You're not even a woman ». Vous n'êtes pas vraiment une femme. Ce à quoi Elisabeth rétorque « I'm a queen, you've been a woman ». Je suis une reine, vous êtes une femme. Ce face-à-face est une pure fiction. En réalité, les deux reines, les deux cousines, ne se sont jamais rencontrées. Actrice insoumise, femme forte et indépendante, je l'ai dit, Katharine Hepburn s'identifie finalement davantage à sa rivale dans le film.
Je n'ai jamais eu de sympathie particulière pour Mary Stuart. Je la tenais pour une belle idiote. J'aurais préféré faire un film sur Elisabeth. Le scénario était quelconque. Je n'ai jamais compris pourquoi John Ford avait accepté la réalisation.
La belle idiote doit se retourner dans sa tombe, son corps du moins, parce qu'elle a perdu sa tête en 1587. Derrière cette arrogance, oui, l'actrice d'Hollywood est d'ailleurs surnommée Catherine of Arrogance, se cache néanmoins une femme douce et bienveillante. Pendant le tournage du film, elle sert du thé aux figurants, envoie des fleurs aux techniciens tombés malades et passe plus de temps avec les petites gens du studio qu'avec ses partenaires. Mais cela ne change pas son image, trop orgueilleuse, qui déplaît au public populaire. Résultat, le film ne marche pas. Et les suivants non plus. L'actrice devient, je cite, « le poison du box-office ». Mais ça ne va pas durer. Après-guerre, les mentalités vont changer. Au fil de ses films, Katharine Hepburn devient une véritable star. Elle joue avec Mankiewicz dans « Soudain l'été dernier » ou Sidney Lumet dans « Long voyage vers la nuit ». Elle remporte 4 fois l'Oscar de la meilleure actrice, un record encore inégalé aujourd'hui. En véritable mythe hollywoodien, elle traverse les années 40, 50, 60, 70 et même 80. Son père lui disait qu'une carrière de comédienne ne pouvait pas durer plus de 5 ans. Elle a prouvé le contraire. « Daddy was wrong », s'amusera-t-elle à dire en interview. En 1999, l'American Film Institute classe Katharine Hepburn comme la plus grande actrice de légende du cinéma américain. 4 siècles plus tôt, Mary Stuart aussi entrait dans la légende, mais avec une fin bien moins enviable. Un destin tragique pour l'une, une destinée magique pour l'autre.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Katharine Hepburn avec Clémentine Portier-Kaltenbach, nous sommes avec 2 sœurs qui la connaissent bien. Bonjour Clara et Julia Kupperberg.
Bonjour.
Bonjour.
Clara et Julia Kupperberg, vous êtes toutes les deux réalisatrices et productrices de films documentaires sur l'âge d'or d'Hollywood. Katharine Hepburn, je l'ai évoqué, était l'une des plus grandes actrices de l'histoire du cinéma américain. Peut-être même qu'elle occupe la première place avec ses 4 Oscars. Pour vous aussi, elle est tout en haut.
Elle est tout en haut, oui. Surtout par rapport à sa longévité. En fait, c'est rare que pour une actrice hollywoodienne de traverser toutes les décennies. Et nous, on l'a rencontrée au cours de plusieurs documentaires. Justement, elle part des années 20 jusqu'aux années 60. Et ça, c'est rarissime à Hollywood.
Après avoir évoqué de nombreux acteurs et réalisateurs dans vos documentaires, qu'est-ce qui, selon vous, rend Katharine Hepburn unique? Qu'est-ce qui la distingue, en quelque sorte, des autres stars de son époque?
Je pense que ce qui la distingue, c'est qu'elle était moderne. Elle était moderne dans le sens où elle était non sexualisée pour l'époque. Donc, elle n'était pas stéréotypée dans un genre de femme qu'on sexualisait énormément dans les studios. Et c'est ce qui la rendait très moderne et très originale. Et je pense que c'est ce qui aussi lui a permis de survivre.
Clémentine.
Bah oui, Stéphane disait à l'instant qu'elle avait aussi un peu quelque chose de snob, de quasiment mondain. Enfin, on aurait dit que c'était la comédienne qui venait de la haute. Est-ce que ça lui a nui? Est-ce que c'est ce qui lui donnait cette espèce d'assurance de côté femme forte, résolument moderne?
Oui, tout à fait. Elle était taxée d'être arrogante, alors qu'en fait, elle était assez gentille. Mais la presse, elle avait des rapports très compliqués avec la presse. Et donc, elle avait été taxée d'être une arrogante, une aristocrate, d'avoir fait des études. Enfin, c'est ce qu'on lui reprochait, en fait. Alors que finalement, c'était plus une façade qu'autre chose.
Clara et Julia, vous venez de signer un documentaire qui raconte le destin unique de Dorothy Arzner, l'une des premières réalisatrices prolifiques à l'époque des grands studios américains. Et vous expliquez que c'est elle qui lance la carrière de Katharine Hepburn en lui offrant le premier rôle de l'un de ses films, La Falaine d'Argent. C'est une réalisatrice lesbienne qui bouscule les convenances. Qu'a-t-elle décelé chez la jeune Katharine ?
Dorothy Arzner, elle était connue pour déceler ce que personne n'avait décelé chez plusieurs actrices. Elle a fait ça avec Katharine Hepburn, elle a fait ça avec Rosalind Russell, elle a fait ça avec pas mal d'actrices. Et chez Katharine Hepburn, elle voit une élégance, elle voit une modernité et elle façonne en elle ce qu'on appelle une persona. C'est elle qui l'habille en pantalon, c'est elle qui va lui créer son look, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui va rester chez Katharine Hepburn jusqu'à la fin de sa carrière. Elle sera connue pour ça. Et c'est vrai que cette image là, c'est Dorothy Arzner qui elle-même s'habillait en homme, qui le façonne chez Katharine Hepburn et qui lui donne un rôle incroyable dans ce film, parce que ce film est contre toutes les conventions de l'époque, c'est-à-dire il est contre le mariage, il est contre la maternité. Elle interprète un personnage qui est une aviatrice, donc déjà c'est très étonnant pour l'époque, mais surtout elle a une aventure avec un homme marié et quand elle tombe enceinte de cet homme, au lieu de le laisser quitter sa femme, de le laisser l'épouser, s'occuper de l'enfant, et bien finalement elle préfère se suicider à la fin. Donc ça montre bien ce que Dorothy Arzner pense du mariage et de la maternité qu'elle a critiqué dans tous ses films.
Mais et grâce à ce film et à son rôle, donc vous l'avez dit, une aristocrate anglaise indépendante qui est pilote d'avion, est-ce que Katharine Hepburn devient progressivement le chef de file d'un cinéma qu'on pourrait appeler aujourd'hui, qu'on pourrait qualifier en tout cas de féministe, où les femmes ont des rôles forts parce que elle voulait représenter un symbole pour les générations suivantes.
Ah bah oui, complètement. Elle représentait des femmes féministes, fortes, qui s'affirment contre les hommes, qui sont asexuées, non sexualisées. Donc ça, c'était très important. Et donc, c'est pour ça aussi qu'elle reste une héroïne extrêmement moderne encore aujourd'hui.
Clémentine.
Dans un autre documentaire de 2014, vous parlez du phénomène des screwball comédies, des films loufoques inspirés du burlesque qui font fureur à Hollywood dans les années 30. Et Katharine Hepburn partage l'affiche avec Gary Grant, notamment dans un film majeur du genre et tellement drôle, L'impossible Monsieur Bébé. Et pourtant, c'est un genre qui semble assez éloigné de la personnalité de Katharine Hepburn. Pour autant, dans ce film, elle explose littéralement, elle est tellement drôle. Comment l'expliquez-vous ?
Ben, on l'explique parce qu'en fait, Katharine Hepburn, la screwball comedy, c'est un genre qui arrive en 1934, quand le code de censure est instauré à Hollywood. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de montrer du sexe à l'écran. Et le sexe va passer par la joute verbale et donc par une espèce d'agressivité entre l'homme et la femme, mais toujours verbale en fait, jamais physique. Et donc en fait, Katharine Hepburn, elle va vraiment collée parfaitement à ce genre parce que elle est élégante, elle n'est pas sexualisée, elle a une arrogance et donc elle se retrouve face à soit que ce soit Cary Grant, soit James Stewart, elle se retrouve avec des hommes avec qui finalement elle est en compétition et elle est dans une espèce de tension sexuelle mais qui passe toujours par le langage.
Oui.
Et ça va très bien lui coller à la peau.
Oui, Stéphane a aussi évoqué le caractère ambivalent de cette comédienne entre ce qu'elle projetait au grand public, une espèce de froideur, de hauteur, et sa considération, sa gentillesse envers les équipes de tournage. Il y a eu, c'est quand même étonnant, ce désamour pour elle à un certain moment de la carrière, alors qu'après, elle va exploser littéralement.
Ouais, c'est vrai, mais d'ailleurs, elle était surnommée le poison du box-office, comme vous l'avez dit. Et en fait, là où elle a été très, très maline, c'est que, en fait, elle sortait avec Howard Hughes, qui était le grand milliardaire, et elle lui avait fait racheter les droits d'une pièce de théâtre dans laquelle elle jouait, d'ailleurs, Philadelphia Story. Et elle est allée le vendre à la RKO, et dans ce film, elle est maline parce qu'elle se fait malmener. La première scène du film, elle se fait, enfin, il y a Cary Grant qui arrive et qui la jette par terre, littéralement, quoi, en la poussant par le visage. Et donc, donc, en fait, elle s'est dit qu'en se faisant malmener à l'écran, en faisant d'elle finalement le punching ball de voilà la victime, elle allait attirer la sympathie du public. Et ça a marché. Et donc, elle est revenue comme ça sur le devant de la scène.
Qu'est-ce qui a fait qu'avec elle, par rapport à d'autres grandes actrices de son temps, la magie a continué d'opérer ?
Elle a continué à jouer, c'est rare, comme vous le disiez, dans les années 50, elle fait quand même des grands films. D'ailleurs, elle a, sur les 4 Oscars qu'elle a eu, il y en a 3 qu'elle a eu à la fin de sa carrière, que ce soit pour African Queen ou même Un lion en hiver, où d'ailleurs c'est l'un des premiers rôles d'Anthony Hopkins, dont on vient de faire un documentaire. Et en fait, elle a donné un conseil à cette époque-là, Anthony Hopkins, lui-même dit que c'est le plus grand conseil qu'on lui a jamais donné. Elle lui a dit, surtout, ne joue pas, en fait. Voilà. Et donc, lui qui venait du théâtre, comme elle, du théâtre shakespearien, il a compris qu'en fait, pour durer, il fallait avoir un jeu sobre. Il fallait toujours rester dans un minimalisme hyper important, en fait. Mm-hmm. Et ce qui l'a fait durer, c'est ça, c'est cette modernité de jeu, en fait.
Et elle est aujourd'hui considérée comme un monument du cinéma mondial. Est-ce que selon vous, il y a une ou plusieurs autres actrices de sa trempe à Hollywood ?
Bah moi, je pense à une Meryl Streep, par exemple, qui a un peu le même parcours, qui est comme ça, qui est une femme qui ne se sexualise pas, qui joue pas de sa sexualité. Et même, je dirais même, Julia Roberts aujourd'hui, alors qu'on la connaît pour Pretty Woman, beaucoup plus jeune, mais finalement, quand on regarde ses rôles aujourd'hui, c'est pareil. Elle ne joue pas la carte de la sexualité, de la féminité, de la jeunesse à tout prix. Et finalement, ce sont les seules actrices qui perdurent et qui ont des rôles intéressants encore aujourd'hui.
J'appellerais peut-être ça plutôt le naturel. Il y a une forme de naturel,
oui,
de sincérité,
naturel.
Qui
de sincérité.
Font qu'elles peuvent exactement, qui font qu'on vous pouvez traverser le temps. Vous n'avez pas trahi ce que vous êtes.
Vous avez raison.
Mais écoutez, merci Clara et Julia Kuperberg d'être revenues avec nous sur cette actrice mythique de l'âge d'or d'Hollywood qui a redonné vie à Marie Stuart et à bien d'autres personnages. Et je mentionne, comme vous l'avez fait d'ailleurs, votre nouveau documentaire sur une autre grande figure du cinéma plus proche de nous, Anthony Hopkins, Hannibal Hopkins et Sir Anthony, disponible sur le site arte.tv. Merci à toutes les deux.
Merci.
Merci à vous.
Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoine qui vient tout juste de mettre le point final d'interrogation à son quiz à suivre.
Exactement. Et aujourd'hui, alors là, c'est la fête. J'ai un double indice musical. Premier indice.
Hitchcock.
Exactement, il y aura une question sur Alfred Hitchcock. Bah alors le deuxième indice, ça sera Stéphane qui va le trouver.
C'est Tarkan, la chanson du bisou.
C'est ça, exactement. Et alors, vous pensez qu'on va avoir une question sur Tarkan ?
Non, sur la Turquie.
Oh, ça va être sur Atatürk.
Non, sur Tarkan l'ancien, on aura une question. Voilà, mais j'avais pas de chanson sur Tarkan l'ancien. Donc j'ai fait Tarkan pour vous faire plaisir. Vous avez démarré très vite quand même.
Je connais. Mais avant cet affrontement, je vais lui laisser la parole. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret.
Dans l'intimité de l'histoire.
Aujourd'hui, Clémentine, si on parle de la reine Marie Stuart, cet après-midi, vous avez choisi de nous parler de son oncle. Le duc de Guise et de son assassinat qui a changé le sort du royaume.
Que s'est-il passé en fait ? On est en décembre 1588 et en pleine guerre de religion entre catholiques et protestants. Une ligue catholique s'est constituée, dont le chef charismatique est Henri de Guise, donc le tonton de Marie Stuart, qu'on surnomme comme son père le Balafré. Et à Paris, le bel Henri de Guise, il est tout puissant, les Parisiens veulent le mettre à la place d'Henri III.
Enfin, il n'a aucune légitimité dynastique.
Alors, il n'a pas de légitimité dynastique, mais il a quand même le soutien du roi d'Espagne. Et ça, ça pèse très très lourd dans l'Europe de l'époque. Et puis, de toute façon, et puis pas simplement ça. Il est d'ailleurs encouragé par le roi d'Espagne pour obliger Henri III à convoquer des états généraux. Et Henri III, ça a dû être une situation atroce pour lui, parce qu'il est roi de France, mais il a face à lui la popularité de ce rival bien plus beau que lui, bien meilleure santé, soutenu par l'ensemble du royaume. Et donc, il n'a pas le choix. Il est obligé de se soumettre. Et il promet au duc de Guise et à la Ligue catholique de ne jamais conclure aucune paix ou trêve avec les hérétiques. Il est obligé de nommer Henri de Guise lieutenant général du royaume. Et il lui demande de rejoindre Blois, où doivent se réunir des états généraux. Le problème, c'est que dans les députés, les représentants de la noblesse française qui vont participer aux états généraux à Blois, eh ben les partisans du duc de Guise sont majoritaires. Et quel est leur objectif? C'est d'obtenir la déchéance du roi, de dire on va pas garder 5 minutes de plus un roi qui n'a pas de descendants, qui traite avec des hérétiques, et non seulement ça, mais prévoit de laisser son trône à un roi protestant. No way, comme diraient les Jones. Bon, alors du coup, surtout, c'est pas la dernière couleuvre qu'il va devoir avaler, parce que le 15 octobre 1588, il doit promettre que les décisions prises unanimement par les trois ordres réunis aux états généraux deviendront les lois du royaume. Là, c'est quelque chose d'invraisemblable. C'est une rupture institutionnelle hallucinante, un affront gravissime à son autorité. Il est roi de droit divin et maintenant il va devoir, comme le font d'ailleurs les Anglais avec leur parlement, mais enfin nous on n'est pas encore mûrs pour ça en France. Alors, la seule solution, quelle est-elle?
Se débarrasser du duc de Guise.
Exactement. Le puissant rival, allez, hop, on le zigouille. Et donc, 2 mois plus tard, le 23 décembre 1588 à Blois, à 8h du matin, parmi 45 gentilshommes derniers fidèles d'Henri III, une vingtaine, qui appartient à la garde royale, est choisie pour abattre le duc. Et chose hallucinante, c'est le roi lui-même qui leur distribue des poignards. Mais vous imaginez ça? Et puis, alors, après avoir distribuer ses poignards, ils se retirent. Les assassins dissimulent les poignards sous leur manteau, ils se cachent dans la chambre du roi. Les autres, armés d'épées, se cachent à côté, dans une autre petite pièce qu'on appelle le cabinet vieux. Le secrétaire d'Henri III prévient le duc de Guise que le roi le mande dans le cabinet vieux. Donc le duc y pénètre, il se méfie pas du tout. Il se dirige vers un couloir précédant le cabinet et là, en ouvrant la porte, il aperçoit les hommes qui l'attendent, l'épée à la main. Alors évidemment, il veut reculer, partir, se fuir, mais les 8 autres hommes qui stationnaient dans la chambre lui coupent la retraite. Ils se jettent sur lui, le saisissent aux bras, aux jambes, roulent son manteau autour de son épée pour ne pas s'être blessé. Le duc, qui est quand même un costaud, renverse 4 de ses agresseurs en blessant avec son drageoir. Son drageoir, c'est son petit couteau, quel beau mot. Bon, il prend un coup de couteau dans la gorge, un autre dans les reins. Il arrive à entraîner la meute jusqu'au bout de la chambre et revient tombé près du lit. Le lit du roi, en gémissant, c'est quand même un drôle de réflexe qui en dit long sur ce qu'on a en tête à cette époque. Miserere mei Deus. C'est-à-dire qu'il se voit mourir et demande à Dieu de le prendre en pitié, et le tout en latin. C'est beau, le duc de Guise. Alors, c'est là qu'est carton. Alors là, l'image d'Épinal. Et carton, la tenture derrière laquelle il s'était caché, le roi qui a assisté au spectacle se serait écrié à la vue du corps de son rival.
Il est plus grand mort que vivant.
Ah voilà, incroyable. Ah oui, c'est beau ça. Vraiment, phrase historique absolument incontournable. Bon, alors décrit par un partisan de la Ligue, les choses se sont racontées un petit peu différemment. Là, un des amis du duc de Guise dit, voilà le roi qui apparaît, l'épée nue au poing. Il aborde ce corps déjà transi et d'une voix transportée et d'une action pire que celle d'un démoniaque frappant du pied sur l'estomac, sur la gorge et sur la face de ce pauvre prince. Lui disait, nous ne sommes plus deux. Je suis roi maintenant. Enfin bon, quoi qu'il en soit, en fouillant le cadavre, on découvre quand même une lettre contenant ces mots. Pour entretenir la guerre civile en France, il faut 700 000 livres tous les mois. Donc le duc de Guise était bel et bien en train de négocier avec l'Espagne catholique des sommes d'argent pour pouvoir mettre à bas le pouvoir, l'autorité royale légitime. Alors la conscience en paix, Henri III lui va entendre une messe d'action de grâce dans la chapelle Saint-Calais pour remercier Dieu d'avoir estourbi son ennemi. Le lendemain, l'autre tonton de Marie Stuart, le cardinal de Lorraine, frère du duc, qui avait été enfermé aussitôt après le meurtre, est assassiné à son tour, et son corps va rejoindre celui de Guise dans une salle du château. Les deux cadavres sont ensuite brûlés et leurs cendres jetées à la Loire. Fin des deux oncles de Marie Stuart. Et y a quand même des troupes espagnoles qui débarquent à Paris et à Rouen en soutien des insurgés. On l'a échappé belle. 8 mois plus tard, Henri III meurt à son tour, assassiné par Jacques Clément. Et c'est à Henri de Navarre, devenu Henri IV, premier et seul roi protestant de l'histoire de France, qu'il appartiendra de restaurer la paix civile, mais il y avait du boulot.
Merci beaucoup Clémentine. Maintenant, c'est le moment de l'émission où je regarde mon complice Jean-Luc avec inquiétude, car ce sympathique camarade se transforme en arbitre intraitable.
Oh, c'est dommage, ça partait bien. Et vous vous transformez en collégien fébrile. Et c'est avec un plaisir assez sadique, je l'avoue, que je vais vous envoyer au tableau des supplices. Allez, c'est parti. On commence avec vous, Stéphane. Alors, j'aurais commencé ce quiz par un mea culpa. C'est vrai, je le confesse, il peut m'arriver d'être un peu critique envers le régime de Vichy. Hein. Mais si vous écoutez ce qui va suivre, vous me comprendrez. La Fédération Française de Tennis de Table a été interdite par le régime de Vichy. Vrai ou faux ?
Non.
Non, c'est parce que le tennis de table...
Pas le tennis de table, non, enfin. Est-ce qu'il y avait, est-ce qu'on jouait déjà, d'ailleurs, même au ping-pong à cette époque-là ? Est-ce qu'on
le
avait
tennis
déjà...
de table, à l'époque, c'était... On disait pas ils encore
ping-pong. Oui, bah, c'est du ping-pong.
Ils ont interdit certains sports, c'est vrai. Moi, je dirais oui. Je me souviens qu'ils ont interdit des trucs.
Ils ont interdit des trucs. Ça, je vous confirme. Je vous confirme. Non, mais bon, on les aime pas trop.
Ah ben non, non, ça franchement. Moi, j'adore Vichy comme ville.
Oui, la ville. Oui,
les carottes Vichy et l'eau de Vichy.
Les pastilles Vichy.
Les pastilles Vichy, mais pas le régime.
Et puis aussi le petit motif.
Ah le Vichy, le tissu aussi.
Mais pas le régime de Vichy.
Et l'eau de Vichy, c'est un peu salé, mais bon.
C'est ça.
Bon, moi j'ai dit non, lui il a dit oui.
Je vais dire oui pour contredire Clémentine.
Ben écoutez, de toute façon, c'était Stéphane qui devait répondre.
Je sais
on
bien,
va écouter
mais ça
la réponse
m'empêche
de
pas
Stéphane.
De m'exprimer.
Vous avez gagné.
Vous avez gagné.
Ah. Voilà. Hein.
Bravo Stéphane.
La Fédération Française de Tennis de Table a été interdite par le régime de Vichy. Et ce sport l'a également été en Union Soviétique entre 1930 et 1950. Et savez-vous pourquoi ?
Non.
Parce qu'il abîmait la vue. Enfin d'après eux.
C'est Vichy trouvé que le ping-pong abîmait la vue.
Je suis pas sûr que ce soit pour cette raison, mais en tout cas, ils l'ont bien interdit.
Non, bah moi, je vois votre truc là. Vous avez trouvé toute une liste de sports interdits pour des raisons X, et vous allez piocher le. Voilà, ils ont interdit le ping-pong et la pêche à la mouche.
Eh ben, vous avez qu'à les écrire les quiz, hein, Clémentine.
Bah, je pense que c'est ce que je vais finir par faire.
Je vais vous poser une question. Vous êtes déjà perdu, hein, je vous le dis tout de suite. Quelle phrase est vraie? Horatio Nelson dit. L'amiral Nelson a eu une fille prénommée Horatia. Ou Gilbert de Mottier de Lafayette, dit le général Lafayette, a eu une fille prénommée Gilberta.
Nelson a une fille surnommée Horatia, avec Lady Hamilton, dont nous avons vu le squelette dans ce studio il n'y a pas si longtemps.
Écoutez, de toute façon, vous savez que vous avez perdu quoi qu'il arrive. On écoute quand même la réponse.
Vous avez... perdu.
Sa fille s'appelait pas Horatia ?
Si, si, elle s'appelait bien Horatia, mais je vous ai dit, vous avez perdu. Donc, il a eu Horatia, une fille illégitime, avec Lady Hamilton, l'épouse de l'ambassadeur britannique William Hamilton. Ce dernier admirateur de l'amiral Nelson a même encouragé la liaison. Il faut dire que quand il s'est marié avec mademoiselle Hamilton, il avait 60 ans et elle en avait 26.
Il en a fait son sigisbée. Oui, ben voilà, c'est un monsieur raisonnable. Il a gardé l'affection de sa femme comme ça.
C'est quand même dommage que vous ayez perdu là-dessus.
Et vous dites rien. Ah non,
il est l'arbitre.
Ah oui, c'est ça, oui.
Et comment que j'ai dit?
Il est juste, vous avez dit juste.
L'arbitre intraitable.
Ah oui, impartial, oui.
Une question pour vous, mon ami Stéphane. Le dernier roi de Rome fut le fils de Tarquin l'Ancien. On estime le début de la royauté romaine à la fondation de Rome par Romulus et Rémus en 753 avant Jésus-Christ. Mais comment s'appelle le fameux fils de Tarquin l'Ancien ? Plusieurs propositions. Tarquin le Nouveau, Tarquin le Superbe ou Tarquin l'Invaincu ?
Bah, si c'est lui qui a vu l'effondrement de Rome, il n'a pas été invaincu, là. Il a pris la grosse pâtée.
Tarquin le Neuf, le Nouveau.
Le Nouveau. Tarquin le Superbe.
Le Superbe.
Ou Tarquin l'Invaincu. Comment ça se passe, la mémoire ?
L'Invaincu. Moi, j'aurais dit Tarquin le Jeune, mais...
Le Nouveau, donc.
On n'aura en effet pas dit le Nouveau. Ils auraient dit le Jeune, les Romains.
Vous pouvez penser à Tarquin.
Le Superbe. Si je pense à Tarquin, le chanteur, le Superbe.
Alors, vous dites le Superbe, on vérifie.
Vous avez gagné.
Oh, mec, il est fort.
Voilà, c'est louche, ça.
Mais non, Tarquin, le Superbe.
Et chaque fois, vous m'incitez à dire des choses fausses.
Mais voilà.
Wow.
Excusez-le d'être brillant.
Bah oui, chapeau, là. Oh là là.
Tarquin, le Superbe, qui a été renversé par Lucius Junius Brutus. À ne pas confondre avec Marcus Junius Brutus, celui qui a donné le dernier coup de poignard à César.
César, oui.
Une question vraiment, mais pour la beauté du jeu. Clémentine Portier-Kaltenbach.
Ah, maintenant, je ne joue plus que pour la beauté du jeu, c'est ça l'idée de, ou c'est juste pour aujourd'hui?
C'est-à-dire qu'il a 2 points, vous en avez 0.
Ah oui, c'est vrai.
Donc oui, c'est pour la beauté du jeu.
0 points et une bonne réponse. Alors allez-y.
Et de toute façon, vous aurez un deuxième mauvais point.
Ah non.
C'est une mauvaise réponse. Alors quand Hitchcock fait de courtes apparitions dans ses films, on appelle ça, vous savez...
un caméo.
Exactement. Cela vient de l'époque japonaise appelée Kamakura,
non,
qui a commencé en 1185.
Non, ne faites pas toute la question, je dis non.
Et c'est achevé. Vous voyez pourquoi vous avez des mauvaises réponses? Vous êtes insolente. Et ça continue. Vous n'apprenez pas de vos erreurs. Et c'est bien dommage.
Oui, mais comme là, j'aurai 0 de toute façon, je vois pas l'utilité d'écouter toute votre question.
Alors, ça vient d'où?
Ça vient pas de ça, ça vient d'un mot. Est-ce que c'est un mot italien ou latin et qui a un rapport avec, je pense, ou est-ce que c'est pas l'image ou le, ou ça vient du camé, ou ça vient, c'est-à-dire le profil, voilà. Ça vient du camé, ça vient, c'est le profil d'un visage et c'est un profil qu'on aperçoit une image furtive dans un film et récurrente. Je pense que c'est quelque chose
donc
comme ça.
Donc pour mon histoire de Japon, déjà vous dites
non,
faux.
Non, ça je dis japonais. Non.
Vous dites faux. On vérifie. Faux.
Vous avez encore perdu.
Oh. Oui, oui. Non, 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 c'était pas du tout le Japon, mais vous avez perdu quoi qu'il arrive. Ça vient de l'Italie.
Oui.
C'est dommage, vous n'y avez pas pensé à l'Italie.
Oui, c'est dommage. Bon, j'en appelle à mon comité de soutien.
Ouais, c'est ça.
Écoutez, non,
il y a des
là,
gens
ça...
qui vont manifester dans la rue. Ça vient de l'Italie au XIIIe siècle. Cela désignait une pierre avec plusieurs couches superposées.
Et oui.
Le caméo était un peu comme un rôle superposé aux autres. Et sachez que Kamakura est bien une époque du Japon, mais c'est aussi une ville située à 50 km au sud-ouest de Tokyo. Quel dommage, vous n'avez fait que des mauvaises réponses aujourd'hui, Clémentine. Je suis navré. En tout cas, félicitations. Une victoire bien méritée, Stéphane.
Europe 1, historiquement vôtre.
On se retrouve dans un instant avec Jean-Luc Lemoine, David Castel-Lopez, Gavin Clemente-Ruiz et nos dames du jour qui ont redonné vie à Mary Stuart. Après Catherine Hepburn, qui a incarné la reine d'Écosse à Hollywood, je raconte une comédienne qui a marqué le cinéma français à tout jamais et a incarné la reine de France. Oui, oui, c'est la même, l'épouse de François II, c'est Annie Girardot. Et vous, Jean-Luc, vous allez nous raconter une autre star, peut-être même plus star encore et plus vivante, qui a incarné aussi Mary Stuart.
Oui, une habituée des rôles en costume qui n'a pas pu mettre pour l'occasion son petit pull marine, Isabelle Adjani.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern.
Elle a aussi campé Mary Stuart à l'écran, mais sur le petit. Après une incroyable carrière au cinéma, jouant sous la direction des plus grands, elle a connu une pénible traversée du désert. Je vous raconte maintenant le destin en dents de scie émouvant, forcément émouvant, de l'inoubliable Annie Girardot. Hollywood n'a pas le monopole de la représentation de Mary Stuart à l'écran. Rappelons que la reine d'Écosse est Clémentine, nous le racontait tout à l'heure, la fille d'une Française, Marie de Guise, et fut aussi reine de France, l'épouse de François II, qui devint roi en 1559. Il est donc logique que la reine de France ait droit à son adaptation française. En 1978, Didier Decoin, l'actuel président de l'Académie Goncourt, publie « La dernière nuit ». Un court roman dans lequel il raconte les derniers instants de Mary Stuart avant sa mort. Une mort spectaculaire, il est vrai. Pour ceux qui n'étaient pas là au début de cette émission, je rappelle qu'après le décès de François II, Mary Stuart quitte la France pour rejoindre son Écosse natale dont elle est la reine. Là-bas, les lords protestants se soulèvent et la contraignent à abdiquer. Reine déchue, elle se réfugie en Angleterre chez sa cousine, Elisabeth Ier, qui veut éliminer toute concurrence, manigance et la condamne à mort. Mary Stuart demande alors une exécution publique. Le 8 février, la reine déchue monte sur l'échafaud au château de Fotheringay. La tête haute, telle le Christ sur la croix, elle pardonne à tout le monde. Le rapport d'exécution témoigne de son impassibilité. Depuis son arrivée dans la salle jusqu'au coup de hache, il ne s'apparut aucun changement en son visage. Il est vrai qu'elle prie sans s'arrêter, embrassant frénétiquement son crucifix. L'exécuteur le lui arrache violemment des mains. Pour parvenir à trancher sa tête, le maladroit doit s'y reprendre à 3 fois. Après le 3e coup, il faut scier encore un peu. Vers 10h, Mary Stuart est morte, mais sa légende est née. L'histoire mérite un film. Didier Decoin décide d'adapter son roman. Pour incarner la reine d'Écosse, il pense à l'actrice Annie Girardot, qui a joué avec Lelouch, Carnet, Visconti. La dernière nuit est diffusée en 1981, non pas au cinéma, sur le petit écran. la star ne va quasiment plus jouer au cinéma et en souffrir terriblement d'ailleurs. Née à Paris en 1931, Annie peut remercier sa mère de lui avoir prédit sa carrière. Raymond Girardeau se passionne pour l'astrologie. Alors que sa fille s'apprête à commencer des études d'infirmière, elle décide de l'inscrire à l'école de théâtre de la rue Blanche. Annie se révèle brillante comédienne et intègre le conservatoire le jour de ses 21 ans. Elle y côtoie Belmondo, Marielle ou Claude Rich et remporte avec brio les deux premiers prix de comédie. Mais Annie Girardeau peut tout jouer. Le poète Jean Cocteau décèle chez elle, je le cite, « le plus beau tempérament dramatique de l'après-guerre ». Il l'emmène chez Alexandre, le coiffeur du Tout Paris. La jeune femme troque ses boucles pour une coupe courte androgyne qui fait ressortir son regard. C'est une métamorphose. Dans la machine à écrire de Cocteau, elle est bluffante. La pièce est diffusée à la télé, le public la découvre et l'adopte immédiatement. Les cinéastes, eux, se l'arrachent. Les Italiens en premier. En février 1960, direction Milan, Annie Girardeau tourne devant la caméra d'un des plus grands metteurs en scène de l'époque, Luchino Visconti. Girardeau joue le premier rôle féminin de Rocco et ses frères, face à elle deux vedettes, Alain Delon et Renato Salvatori. Le premier devient son ami, le second son amant.
Enfin, si je comprends bien, tu fais la boxe comme moi je fais la vie. Non ? Hé, hey, pour le fric ?
Non, c'est pas seulement pour l'argent.
Ah bon, c'est par passion?
Non.
Ah bah t'es comme moi. Parce que moi aussi c'est par passion, figure-toi.
Très vite, Annie Girardeau attend un enfant. Le couple se dit oui le 6 janvier 1962 à la mairie du 16e arrondissement de Paris. Parmi les témoins, Visconti et Cocteau répondent présents. Mais le conte de fées vire vite au drame. Renato est infidèle, Renato boit trop, et lorsqu'il rentre complètement imbibé d'alcool, les coups pleuvent sur Annie. L'actrice prend ses distances et s'installe à Paris, place des Vosges, déterminée à reconquérir le public français. En France, c'est la nouvelle vague. À 35 ans, Girardeau est-elle encore dans le coup? La réponse est oui pour Claude Lelouch. Le cinéaste la fait jouer face à Yves Montand, dans Vivre pour vivre. Elle incarne une femme trompée, un rôle qu'elle connaît malheureusement trop bien. Mais le rôle qui la révèle, c'est celui de Daniel Guénot dans Mourir d'aimer d'André Cayat. Daniel Guénot a existé, c'est Gabriel Russier, une professeure de lettres de Marseille, qui s'est suicidée à la veille de la rentrée scolaire 1969. Pour cause, l'acharnement de la justice après la plainte des parents d'un élève qu'elle aimait, il avait 17 ans. Si elle eût été un homme, l'affaire aurait été sûrement étouffée. Ce fait divers a ému toute la France. Même le président Pompidou l'évoqua lors d'une conférence de presse. Le challenge est immense. L'actrice vomit pendant les tournages tant la pression est forte, mais le résultat est là. 5,5 millions de Français se déplacent au cinéma.
Mourir d'aimer.
En 1979, un sondage désignant les acteurs préférés des Français est publié par Paris Match. Il confirme la popularité d'Annie Girardeau, qui se classe numéro 1, devançant Belmondo et Delon, s'il vous plaît. Le succès est là, mais l'actrice va bientôt se détourner du cinéma. Lassée d'endosser toujours les mêmes rôles, Annie Girardeau désire faire une pause. Elle, qui n'avait pas tourné pour la télévision depuis Belle Lurette, comme elle dit, accepte malgré tout en 1980 l'adaptation de Marie Stuart qu'elle évoque face à Pierre Tchernia.
On imagine la dernière nuit de Marie Stuart. Et c'est un plaisir parce que c'est... Bon, il a écrit des livres, etc. Il écrit des scénarios, etc. Mais je veux dire, c'est un homme, je veux dire, sur le plateau, je veux dire, un homme, vraiment un homme du spectacle, un homme de cinéma. Et je veux dire, j'ai été très contente de faire ça, parce que d'abord, je n'avais jamais... Enfin, si, j'avais fait la télévision il y a Belle Lurette. Et là, c'est vraiment la première fois. Et je le fais avec grand plaisir, parce que je trouve que là, pour une fois, c'est fait pour la télévision.
Cette année-là, ce sera l'un de ses seuls deux rôles. L'année d'après, Girardeau fait la rencontre d'un musicien, Bob Decoux, dont elle tombe follement amoureuse. Ses proches la mettent en garde, mais Annie a des étoiles dans les yeux. Ils montent un spectacle ensemble et veulent rouvrir le Casino de Paris. Le projet est fou, très cher surtout. Aucun producteur n'y adhère, alors elle décide de le produire elle-même. Annie Girardeau emprunte et hypothèque son appartement de la place des Vosges. Elle rêve d'un succès. Et ce sera un échec cuisant. La salle est presque vide. Le spectacle ne reste qu'un mois à l'affiche. Pour sauver son honneur, elle paye toute la troupe, ce qui l'oblige à vendre son appartement. Les années suivantes, Annie Girardeau est boudée par la profession. On ne lui propose plus rien. Elle ne reçoit ni coup de fil, ni scénario. Jusqu'à ce qu'un projet mette fin à cette longue et douloureuse traversée, c'est Claude Lelouch, encore lui, qui lui propose de jouer Madame Thénardier dans son adaptation des Misérables de Victor Hugo. Un premier rôle depuis longtemps, mais un second dans la réalité qui sera récompensé, enfin. Le 3 février 1996, Annie Girardot reçoit le César du meilleur second rôle féminin. Lorsqu'elle monte sur scène pour recevoir son prix, la comédienne prononce un discours déchirant.
Ça fait tellement longtemps. Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais à moi, le cinéma français a manqué follement et perdument, douloureusement. Et votre témoignage, votre amour me font penser que peut-être, je le dis bien peut-être, je ne suis pas encore tout à fait morte.
Puis après le cinéma français, c'est le théâtre qui lui refait du pied. Annie Girardot campe Madame Marguerite avec brio. En 2002, elle reçoit le Molière de la meilleure comédienne. Une comédienne qui doit désormais apprendre à gérer ses trous de mémoire. Oui, de plus en plus, son comportement est jugé étrange. Elle dit tube, elle a des absences, les mauvaises langues la disent alcoolique. En réalité, Annie Girardot est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Quand elle meurt en février 2011 à 79 ans, elle a oublié qu'elle avait été actrice. Le monde du cinéma, lui, ne l'oubliera plus. Jamais.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler d'Annie Girardot, nous avons le plaisir d'accueillir celui qui a longtemps été la star des agents de stars, et il est encore une star. Bonjour Dominique Besnéard.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Dominique, vous êtes producteur et surtout vous avez été l'un des plus célèbres agents artistiques de nombreux acteurs, réalisateurs et metteurs en scène au sein de la prestigieuse agence Armedia. Parmi l'ensemble des stars que vous avez côtoyées, que représente Annie Girardot pour vous ?
Ben moi j'ai connu Annie Girardot très souvent dans les couloirs d'Armedia. Pas qu'elle cherchait des rôles, mais elle était très très protégée par son agent, qui est une femme extraordinaire, qui s'appelle Josette Arrigoni. Et c'était dès qu'elle avait un problème, elle venait voir Josette, et Josette organisait tout. Et j'ai souvent vu, j'ai mieux connu quand elle faisait les séries pour la télévision. Elle a fait vraiment une grande carrière dans des téléfilms, dans des séries. Mais j'ai jamais... Si, j'aime beaucoup un film qu'on ne voit jamais, c'est avec Marlène Jobert, c'est Juliette et Juliette. Ce film qui parle avec en ce moment avec le féministe, on ferait bien leur passer, hein, parce que c'est des femmes révoltées. Et en même temps, il y a une réplique que j'adore, que Annie Girardot dit, vous êtes bien gentilles les filles, mais qui nous fera des filles si on n'a plus les hommes? Voilà, donc, et Annie, j'ai jamais été intime avec elle, mais sa carrière quand même. D'abord, elle est normande, elle vient de Caen, mais surtout, elle a fait le conservatoire avec Fabian et comme vous disiez, avec Belmondo, Rich et tout. Et ensuite, elle est allée à la Comédie Française où elle s'est ennuyée. Et ensuite, elle a fait des pièces sur le boulevard qui ont très très bien marché.
Mais c'est vrai qu'elle s'investissait totalement. D'abord, son métier, c'était vraiment presque toute sa vie. On sent qu'elle s'investissait corps et âme dans chaque rôle. En témoigne la pression qu'elle se mettait pour celui de Daniel Guinaud dans Mourir d'aimer. Jean-Michel Parker, dans son livre Nos actrices françaises, que vous préfacez d'ailleurs, Dominique.
Et que je recommande parce que franchement, c'est un travail de 10 ans.
Hein. Oui,
c'est vraiment une anthologie. Et c'est vrai, alors qu'est-ce qu'il alors, dit sur
non,
la vous, vie?
Non, mais c'est ce que il évoque, ce qu'Annie Girardot a écrit sur ce rôle. Cette histoire m'avait révolté et Gabrielle Russier m'habitait. Elle dort toujours au fond de moi, prête à se relever pour dénoncer toute forme de répression. C'est-à-dire qu'on sent quand même qu'il y a la combattante, celle qui veut faire passer des messages, qui habite ses rôles.
Oui, oui. Elle était, on disait, les Français s'identifiaient à elle. C'était l'actrice préférée des Français, vraiment. Jeanne Moreau, qui était aussi un peu la même génération, n'a jamais eu l'amour des Français, comme même si c'était une grande actrice. En plus, j'étais l'agent de Jeanne Moreau. Elle n'a jamais eu l'amour du public. Annie Girardot l'avait. Parce que les gens se reconnaissaient, les hommes... Au début, l'a trouvée un peu séduisante. Après, c'est vrai qu'elle s'est un peu laissée aller. Mais c'était vraiment l'actrice de la femme d'à côté. Et en plus, quand on la revoit dans Vivre pourvu, elle est sublime. Et pourtant, elle fait une femme abandonnée.
Oui. Mais c'est vrai qu'on pouvait s'identifier plus facilement à elle qu'à Jeanne Moreau, par exemple.
Ou même à Catherine Deneuve. Oui. C'était la même génération.
Oui. Jean-Luc?
Moi, je voulais revenir sur son rôle de Marie Stuart. C'est sans doute le rôle le plus éloigné d'elle. D'après vous, pourquoi Didier Decoin, qui dirige l'adaptation de son livre, l'a choisi pour l'interpréter?
Bon, parce que cela dit, c'est vrai que sur le papier, ça fait un peu bizarre. Mais en même temps, Marie Stuart, elle a vécu en France, hein, puisqu'elle elle était mariée avec François II. Mais je sais pas. Oui, elle n'était pas vraiment. Du reste, elle n'a jamais joué des nobles. Elle jouait quand même
les femmes du peuple, bien sûr.
Les femmes du peuple, enfin du middle class. Mmh. Mais elle, moi, en souvenir, je la vois pas avoir joué une reine. Mmh. C'était l'anti-Delphine Seyrig, on la voit pas.
Mais c'est vrai, Dominique, que pendant de longues années, notamment les années 80 et 90, Annie Girardot semble boudée aussi par le cinéma. Elle se perd dans ce projet pharaonique qui va la ruiner au Casino de Paris.
Vous êtes trop jeune, mais moi je l'ai vu, hein, c'était une catastrophe.
Ouais. À ce point-là?
Moi j'étais avec Nathalie Baye à l'époque, elle vivait avec Johnny Hallyday. On avait
elle y a laissé sa chemise en plus. Hein.
Oui, alors je ne sais pas ce qu'il est devenu, Bob Decoux. Les méchants disaient Bob Trois-Coups. C'est pas moi qui l'ai dit. Ouais. Hein. Il l'appelait Bob Trois-Coups. En tout cas, je sais pas mais ce que c'était. Je pense qu'elle était amoureuse. Puis peut-être qu'elle était. Il avait écrit des chansons plutôt pas mal, je crois. Ouais. Donc je sais pas. Mais
qu'est-ce qui s'est passé avec le cinéma? C'est le cinéma qui ne voulait plus d'elle, ou c'est elle qui ne voulait plus du cinéma?
Ah non non. Elle voulait. Personne, aucune actrice ne veut plus du cinéma. Ou, ou alors elle parte. Ce qui a été le cas de Marlène Jobert. Parce que Marlène, on l'a pas mis à la porte.
Non,
elle a dit j'en ai assez.
Elle a fait ses comptes.
Elle est partie quand même très jeune.
Très jeune.
Mais bon, pour des raisons différentes. Mais elle, je crois que donc elle a quand même fait tout le temps du théâtre, hein, quand même. Hein. Elle a quand même gagné sa vie. Et puis la télé, l'orage d'été. Puis il y en avait un autre une autre série qui a très très bien marché. Les Moissons. En tout cas, les grandes séries d'été.
Les grandes séries d'été, ça cartonnait en plus.
Ça cartonnait.
Le
vent des Moissons. Donc, j'ai quand même un peu de mémoire.
Extraordinaire mémoire. Mais cela dit. On a tous été bouleversés en 1996 lors au César, ce discours déchirant. On sentait dans la salle que les gens étaient un peu, comment dire, un sentiment de culpabilité aussi.
Ah oui, en plus, c'était pas préparé.
Oui.
C'était, c'est là où c'est formidable. C'est venu du cœur. Et en même temps, elle a été très concise. Elle est pas partie dans le délire. Elle était là. C'était carrément fatal. Implacable, comme elle l'a dit. Ça a fait un malaise dans la profession. Et en même temps, c'est le plus bel extrait lorsqu'une actrice est abandonnée. C'est presque l'émotif de tous les gens qu'on abandonne.
Non, c'est une immense actrice et c'est bien de le rappeler justement.
Mais elle est pas oubliée. Girardot, elle est pas oubliée. Mmh. C'est parce que aussi elle passe à la télévision. Vous dites tout à fait justement que Gabriel Russier, le Mourir d'aimer est un film. Moi, sur place au cinéma, on le passe tout le temps parce que les gens, et ça marche toujours. Mmh. C'est un peu d'abord un combat de femmes merveilleux. Et puis, même l'allusion de Georges Pompidou.
Oui, c'est bien sur le poème qu'il a lu dans sa conférence, qu'il a récité puisque c'est un grand, il avait publié une anthologie de la poésie française, donc il connaissait bien la poésie. Merci Dominique Bessénard de nous avoir raconté votre Annie Girardot. Je rappelle le livre que vous préfacez, Nos actrices françaises, de Jean-Michel Parker, publié aux éditions Hergé.
C'est un beau cadeau de Noël.
Mais voilà, très bonne idée. Merci beaucoup.
Europe 1, historiquement vôtre.
Stéphane Bern.
Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoine, David Castello-Lopez et Gavin Clemente-Ruiz, ont réuni des personnages qui ont redonné vie à Marie Stuart. Après Catherine Hepburn et Annie Girardot, vous nous racontez, Jean-Luc, celle qu'il a incarnée plus récemment sur les planches, Isabelle Adjani.
Vous voyez à quoi ressemble Elsa, la Reine des Neiges, Stéphane?
Bah, à peu près, oui.
Vous voyez à quoi ressemble la laitière des pubs Nestlé?
Oui. Mm-hmm.
Et est-ce que vous voyez à quoi ressemble un consommateur de LSD?
Ouais, enfin j'imagine.
Ouais, mélangez ces trois images dans votre tête et vous obtiendrez Isabelle Adjani dans le rôle de Marie Stuart, peut-être Marie dans les années 2000.
Isabelle a les yeux bleus. Isabelle a les yeux bleus.
Car oui, Isabelle Adjani aussi a redonné vie à Marie Stuart. Puis Florence Foresti a redonné vie à Isabelle Adjani qui redonnait vie à Marie Stuart.
Je ne suis pas folle, vous savez. Bonsoir.
En 2006, la comédienne aux 5 Césars, aux rétines élégamment exorbitées et aux réactions inattendues, interprète Marie Stuart avec brio dans une mise en scène de Didier Long au Théâtre Marigny à Paris. Isa, oui je l'appelle Isa, reçoit chaque soir une standing ovation digne d'un Mick Jagger suintant sur la scène du Stade de France. Elle devient la rockstar du Marigny, la Madonna des intellos parisiens, le jet de culotte en moins. C'était le jet de culotte. Il était un peu ambitieux celui-là, mais vous avez l'idée globale. Les autres personnages ne sont que des faire-valoir quand elle interprète Marie Stuart, écrit le journal Le Monde. Soit la même critique qu'on a pu lire sur le téléfilm Bellefond. Vous avez écrasé vos partenaires, Stéphane. Ne dites pas au contraire, j'ai lu cette critique sur votre page Facebook.
Non.
Et c'est même votre compagnon qui l'a écrite.
Je n'ai écrasé personne.
Si.
Non, on ne voit pas par mon talent.
Dans la pièce, les répliques ressemblent de près à la page Wikipédia de l'actrice elle-même. Son personnage de Marie Stuart parle, je cite, de calomnie, de rumeurs dont elle est la cible, de sa personnalité mystérieuse, parfois capricieuse. Adjani, c'est vrai, est une icône insaisissable, illisible, incapable de se séparer de ses lunettes noires, se cachant et se dévoilant à la fois. Souvent une main collée à sa joue pour se dissimuler un peu. Comme au bon temps où, bien avant Bruno Le Maire, elle se lovait dans des cols roulés.
Willet aime la laine, et moi j'aime Willet.
Alors une question nous brûle les lèvres. Qui est réellement Isabelle Adjani? Peu de gens peuvent se vanter de le savoir. On sait surtout ce qu'elle n'est pas. Sans m'avancer, je l'imagine peu participant à un concours de lancer de tongs dans un camping auvergnat en plein mois d'août. Un pastis dans une main et un nécessaire de Molky dans l'autre. Mais pour essayer de la comprendre, revenons à la racine de tout. Isabelle voit le jour à Paris, il y a quelques dizaines d'années. Sa date de naissance reste obscure. Ambiguïté cultivée par l'actrice elle-même qui dit en interview « Je passe mon temps à oublier mon âge ». Bref, elle naît en... Elle naît, quoi. Elle grandit dans une HLM de Gennevilliers en région parisienne. Son père est garagiste, sa mère est femme de ménage. Son quotidien n'étant pas des plus festifs, elle décide de fréquenter des cours d'art dramatique dès l'âge de 12 ans pour s'évader. Repérée par Robert Hossein, elle joue ensuite Molière à la Comédie-Française et sera révélée au cinéma en 1974, dans un film sur l'éducation bienveillante mais pas trop, qui enflammerait les réseaux sociaux s'il sortait aujourd'hui, la gifle.
Aïe.
Son rôle d'ado ultra pénible giflé par son père, Lino Ventura, hypnotise tout le cinéma français. Truffaut en tombe éperdument amoureux, Téchiné la vénère, Polanski, Zulawski, Rapno, Miller, tous veulent la faire tourner. Alors pourquoi au fil des années, comme le regrettait son personnage de Marie Stuart, lui a-t-on collé cette image d'actrice un peu capricieuse? Sans doute parce qu'elle est entière et sans concession. Et puis aussi parce que quand Isabelle dit oui, ça peut vouloir dire non. Mais attention, ça peut vouloir dire oui aussi. Ou peut-être. Ou alors non. Puis oui. Hein. Elle est comme un gamin face au bac d'un glacier italien. Le tiraillement est long, douloureux, mais quand le choix est fait, il est fait. Ou pas. Enfin, ça dépend. Après s'être engagée sur le tournage de Prénom Carmen de Jean-Luc Godard, elle abandonne. L'année suivante, Jean Becker lui propose de tourner dans L'été meurtrier. Elle refuse à cause des scènes de nu. Puis, oups, elle change d'avis un an après, lorsqu'elle apprend que Jean Becker veut proposer le rôle à une autre. Lors de la présentation du film au Festival de Cannes, elle se prépare pour aller à la séance de photos pour la presse. Puis non, en fait, pas envie. Elle provoque une grève des photographes sur la montée des marches. La même année, elle fait son retour sur les planches du Théâtre Édouard VII. Puis bof, en fait. Elle abandonne après une cinquantaine de représentations, épuisée. Elle se retire totalement du métier. Mais Kikoum Morvoilou, elle fait son retour au cinéma dans un film de Luc Besson et triomphe en 1988 avec Camille Claudel. Mais décide ensuite de se mettre en retrait de la vie publique. Puis elle revient. En 1993, après 5 ans d'absence, elle tourne dans le film Toxic Affair, qu'elle regrette finalement d'avoir tourné, malgré le cachet de 10 millions de francs qu'elle a touché. Elle se retire une nouvelle fois de la scène et s'installe en Suisse pendant 4 ans. De temps en temps, c'est pour mettre un petit peu de biodiversité pour David Castello-Lopez, tout ça. Elle entame une psychanalyse et accepte finalement de tourner pour la réalisatrice Mai Wen dans le bal des actrices. Les producteurs demandent à Isabelle Adjani d'accepter sans avoir lu le scénario afin de financer le film. Elle accepte, elle est sympa. Ah, et finalement elle se retire du projet après avoir lu le scénario finalement. Autant pour moi. Isabelle est une de nos dernières stars. Extrême, mystérieuse. Elle agace autant qu'elle fascine. Même si ces derniers temps, elle a montré qu'elle avait un grand cœur en acceptant de tourner dans un récit imaginé par Stéphane Bern. Un manque coquin.
Ah bon?
Bah si, j'ai la preuve.
Diane de Poitiers a d'abord été la gouvernante du roi avant d'en faire son amant quelques années plus tard.
Alors, c'est pas de vous, ça?
Non, mais ça, c'est la vraie histoire de Diane de Poitiers.
Ah bon? Ah, mais moi, je crois que c'était encore le genre d'histoire que vous improvisez pour vendre des programmes à France Télé. Car oui, le 7 novembre dernier, Isabelle a incarné Diane de Poitiers sur France 2 et a accepté de rétrograder de reine à comtesse. Je me suis dit qu'elle avait vraiment beaucoup d'amitié pour vous, Stéphane. Merci, Isabelle.
Merci Jean-Luc.
Europe 1,
historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos dames qui ont redonné vie à Marie Stuart pour retrouver deux garçons qui redonnent vie à l'histoire pour un prix plus dérisoire. David Cassel-Lopez.
C'est sympa.
Bah oui, 10 millions de francs. Ouais. Vous nous racontez les origines du térémine.
Térémine qui est un instrument qui fait un bruit très étrange qu'on peut peut-être écouter.
Voilà.
Ah oui, non,
oui.
Ah, c'est horrible.
Oui, voilà. Oui. Bon, on pourrait dire que c'est désagréable.
Oui, très, très.
Bon. On verra si ça laisse tant que ça.
Mais avant cela, comme chaque jour, mes aïeux, quelle époque. Aujourd'hui, on parle découverte avec vous, Gavin Sclementer-Ruiz. Ça s'est passé dans le passé, on remonte au 14e siècle pour découvrir l'Olonko, Gavin. C'est une sorte d'épopée, de saga, de récits parlés et chantés par un conteur. Une tradition, vous nous disiez, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Exactement, Stéphane, cette tradition de l'Olonko, qui veut dire donc épopée, saga, daterait du 14e siècle. Alors c'est un grand récit qui serait né avec un peuple d'origine turque, un peuple chassé, nomade, plus ou moins forcé à s'installer au nord-est de la Russie, en Sibérie, dans cette zone qu'on appelle la Yakoutie. Alors c'est là que ce peuple a commencé à réciter ses nombreux vers, cette poésie à la fois orale, chantée, écrite, mais aussi improvisée.
Mais ça ressemble à quoi concrètement ?
À ça. Vous l'entendez ? L'Olonko, ce sont des textes. Là, c'est évidemment un court extrait, hein, mais oui. Les textes font quelques milliers de vers.
Parce qu'on a l'impression que c'est le même mot qui est prononcé
oui,
tout
mais
le
non,
temps.
Oui, mais non, ça peut aller jusqu'à 36 000 vers.
Ah oui.
La moyenne, c'est 10 à 15 000, racontés par un poète, chanteur, qu'on vient d'entendre, en deux parties. Alors, il y a la partie versifiée, chantée, et une autre partie en prose, qui raconte différents récits. Alors, ces récits, qu'est-ce qu'ils racontent ? Eh bien, des épopées guerrières, des légendes divines, l'histoire d'animaux magiques, tous propres au peuple yakout.
Et l'Olonko, c'est pas un texte figé dans le marbre, c'est comme les autres épopées, l'Iliade et l'Odyssée, par
exemple. Non, pas du tout. En fait, c'est vraiment une forme orale qui évolue avec le conteur, qui est né dans les familles, souvent chassées et nomades, et qui évolue avec le temps.
Mais si c'est une tradition orale, comment ces textes nous sont parvenus ? C'est une chance, ça aurait pu disparaître ?
Exactement, Jean-Luc. C'est au 18e et au 19e siècle, en fait, qu'on a pu découvrir la richesse de ces textes, les étudier aussi grâce à l'exploration de ces terres en Sibérie par les Européens, par les Russes aussi, pour d'autres raisons, peut-être plus politiques, plus guerrières. Certaines versions ont même été retranscrites pour pouvoir les étudier. En 2008, l'Olonko a été inscrit, on l'a dit, au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. De quoi, aujourd'hui, peut-être attirer un peu plus l'attention sur cette pratique très éphémère qu'on évoque aujourd'hui.
Et concrètement, comment se déroulent ces séances de récitation ? Il y a un moment particulier pour cela ?
Alors non, il n'y a pas d'occasion. C'est un acteur qui vient, qui est aussi chanteur, qui s'assoit devant un public très attentif. Plus qu'une récitation, j'ai envie de dire que c'est une expérience. Alors, ça peut durer une nuit entière à entendre cette voix. On vient pour apprécier le talent du conteur qui chante, qui module sa voix, qui doit imiter des personnages, qui parlent de façon assez spectaculaire aussi, et qui doit faire preuve d'originalité parce qu'il faut tenir son public. Il y a une grande part d'improvisation poétique de l'Olonko. Je vais pas vous dire que c'est l'équivalent du stand-up comme vous, Jean-Luc, aujourd'hui, ni un one-man show, mais ça ressemble peut-être dans une façon de capter l'attention du public.
En fait, c'était une occasion de se retrouver entre amis ou en famille.
Bah, exactement, c'est ça. C'est un peu comme les veillées, vous savez, les veillées de nos anciens, au coin du feu, qui racontaient des histoires, les histoires de nos aïeux, pour se faire peur aussi et pour se souvenir. Un détail près, c'est que là, ce chant, ce récit, il n'est pas que nostalgique. C'est aussi une lutte. C'est la lutte d'un peuple opprimé, d'un peuple qui doit réagir contre une situation politique difficile, une situation aussi climatique, hein, rigoureuse. N'oublions pas, on est en Sibérie, il peut faire parfois bien moins en dessous que 0 degré. Et bref, c'est une façon de
se tenir chaud.
Exactement. Oui, c'est ça.
Et cette tradition qui est née au 14e siècle, elle perdure encore aujourd'hui. Il y a encore des gens
plus que jamais.
Qui font ça.
Ouais, on compte 500 000 habitants en Yakoutie. Et l'Olonko, ça reste une caisse de résonance. En fait, des problèmes politiques, des problèmes économiques, sociaux de ce peuple opprimé qui aujourd'hui communique notamment grâce à l'Olonko sur la fin de la vie nomade qui est pourtant à l'origine de ce peuple. L'Olonko, c'est en fait un acte de résistance politique et poétique.
Bravo, merci beaucoup pour cette découverte. Une épopée chantée et récitée, poétique et politique, fondatrice de ce peuple de Yakoutie en Sibérie. Oh, mes aïeux, quelle époque, on apprend des choses avec vous.
Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
Les origines.
Pour clore cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Gavin Sclementer-Ruiz, et surtout avec vous maintenant, David Cassello-Lopez.
Oui, je vous parle aujourd'hui des origines du térémine. Le térémine, qu'est-ce que c'est ? C'est l'un des seuls, sinon le seul instrument de musique au monde qu'on peut jouer sans le toucher. Ça se présente la plupart du temps sous la forme d'une boîte en bois de laquelle sortent deux antennes. L'une de ces antennes, elle contrôle le volume du son et l'autre, elle contrôle sa hauteur. Mais il existe aussi des térémines plus rudimentaires qui n'ont qu'une seule antenne qui contrôle la hauteur du son. Ces térémines-là, ils sont sensiblement moins chers et c'est donc un de ces modèles-là que je vous ai amené aujourd'hui. Regardez-moi ça, on dirait un, je l'ai amené en studio là, je peux vous le décrire, mais on dirait un vieux transistor des années 70.
Oui, c'est ça.
Voilà, une boîte en plastique avec une antenne radio et un gros bouton devant. Et je vous propose donc d'en faire une démonstration. Donc c'est parti, je l'allume. Et maintenant, écoutez ce qui se passe lorsque j'approche ma main de l'antenne. Le son devient de plus en plus élevé. Bon, alors l'espace entre une note et une autre, il est tout petit, donc c'est très très difficile de jouer quelque chose de reconnaissable quand on est débutant comme moi, mais je vais essayer quand même.
Au clair de la lune,
c'est un bon. Alors c'est pas un échec cuisant, c'est un échec relatif.
Non, on l'a reconnu quand même.
Et c'est quand même pas mal. La seule chose, je pense, de vraiment convaincante que j'arrive à faire avec le térémine, ce n'est pas une mélodie, c'est ça. Regardez. C'est la voiture qui accélère. Exactement. C'est convaincant, non?
Tout à fait.
Oui, voilà. Bon. Bon, alors quand on sait en jouer vraiment, hein, le térémine, c'est beaucoup plus joli à écouter, et ça donne ça.
Ah oui, c'est mieux quand même.
C'est mieux que dans un salon de massage.
C'est vrai. Mais alors, d'où vient le térémine, instrument rare et rigolo? Eh bien, il a été inventé par Monsieur Térémine, Léon Térémine. Léon, c'était un monsieur russe qui était né en 1896. Il était à la fois ingénieur, physicien et musicien. Et autour de 1920, il était en train de travailler sur les propriétés de certains gaz quand on les soumet à des ondes radio. Et pour faire ça, il a d'abord essayé de concevoir ce qu'on appelle un capteur de proximité. Je sais pas exactement ce que c'est, mais ça doit être un truc pour savoir si quelque chose est proche ou non. C'est ce que j'imagine. Mais ce qu'il a réussi à faire, en fait, dans un premier temps, c'est de fabriquer tout simplement une antenne qui sonnait lorsqu'on approchait sa main. Et là, il s'est dit, attends, mais je peux grave faire de ça un instrument de musique, en fait, parce qu'en plus, il aimait beaucoup la musique. Et c'est comme ça qu'en 1920, il a sorti le premier térémine du monde. 2 ans plus tard, Léon, il a pu présenter son instrument au russe le plus classe de l'époque, hein, Lénine, qui a été très très impressionné, au point qu'il a envoyé Léon faire des démonstrations de son térémine partout, d'abord en Russie, puis dans le monde entier, et en particulier aux États-Unis. Léon, il s'est installé aux États-Unis en 1927, il faisait plein de concerts avec son térémine, mais il y a pas mal de gens qui pensent qu'il faisait aussi de l'espionnage pour le compte du gouvernement russe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en 1938, il est retourné en Russie brusquement en laissant sa femme sur place aux États-Unis. Donc tout ça est un petit peu louche. En Russie, il a travaillé pour le coup vraiment à des dispositifs d'espionnage, puis pour le conservatoire de Moscou, et il est mort en 1993 à 97 ans. Le térémine, lui, son instrument, il a connu des fortunes un peu de montagne russe, ce qui est à propos pour un russe. Hein. En 1928, il y a une entreprise américaine, la RCA, que vous connaissez peut-être, oui. Très connue, qui lui a acheté le brevet du térémine pour 100 000 $, ce qui était gigantesque en 1927. C'est l'équivalent de 1,7 million d'euros aujourd'hui, plus encore que ce qu'a touché Isabelle Adjani pour jouer son rôle. Et la RCA a commercialisé le térémine en septembre 1929 dans le but que ça devienne le nouvel instrument chic à la mode. Mais le mois suivant, en octobre 1929, si vous vous souvenez bien,
c'est le crack de la bourse.
C'est le crack de la bourse. Et donc, brusquement, le nombre de gens susceptibles d'acheter des térémines hors de prix a diminué.
Oui, ils avaient d'autres urgences.
Voilà, exactement. Et donc, ça a été un échec commercial total. Ensuite, le térémine, il est un petit peu revenu dans les années 50, en particulier pour les bandes originales de films de science-fiction pour lesquels ça marche à merveille. On écoute.
Ah ouais, c'est très années 50.
C'est complètement années 50. Eh bien, ces sons-là, c'est du térémine. On voit vraiment les soucoupes volantes mal faites en noir et blanc, quoi, vous voyez. Et puis, dans les années 60 et 70, il y a des groupes de rock qui se sont emparés du térémine, comme par exemple Led Zeppelin. Alors,
avec des effets. Ça, c'est Whole Lotta Love.
Je pensais qu'il faisait ça à la guitare électrique.
Alors, il le fait sur l'album, c'est de la guitare électrique. Mais sur scène, ça, c'est une version live. Eh bien, il avait un theremin et il jouait avec le theremin. Et enfin, ces toutes dernières années, le theremin est devenu cool. Notamment parce qu'il a commencé à être utilisé par des musiciens électroniques. En France, en particulier, par un monsieur que j'aime beaucoup qui s'appelle Mézergue et qui s'en sert pour faire ça. Vous voyez, tout à coup, ça groove un petit peu. C'est sympa, non?
Carrément, ouais.
Voilà. Bon, moi, évidemment, ça fait pas du tout le même effet, vous voyez. Ça, j'arrive pas à faire un truc bien, mais bon.
Là, on dira détecteur de métaux avec vous.
Mais c'est vrai. C'est très je me demandais que ça me faisait penser. C'est un détecteur de métaux.
Est-ce que vous voulez essayer, Stéphane?
Non, merci.
Allez-y, approchez votre main.
Avouez que c'est amusant, quand même. Il a l'air content de vous voir.
Voilà. Hein,
on a appris des choses. Merci David.
Je vous en prie.
On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement. Ah oui, voilà. Bravo David. Historiquement vôtre, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages qui sont à la pointe de l'épée. Joseph de Bologne, le chevalier de Saint-Georges, qui en escrimeur à la fois craint et renommé, maniait le fleuret comme personne. Puis le plus célèbre des mousquetaires et son épée et son mousquet aussi, le comte d'Artagnan. Et vous Jean-Luc, vous nous raconterez un héros de fiction, un justicier masqué qui signe son nom à la pointe de l'épée, d'un Z. Qui veut dire
Zorro.
Voilà, vous l'avez trouvé, ouais. Zorro, bravo. Alors, à demain les amis.
Au revoir Stéphane.
Au revoir. Zorro.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.